Les autres, moi, je suis partant tout le temps.
Oui, oui.
Il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite. Ça peut être 8 un matin, à midi.
Il n'y a aucun problème.
Aucun problème.
Ça peut être chili au chili, ça peut être... Ouais. Oui, moi, j'aime la reluche.
Mayonnaise.
Un autre, un graisseux, un gazeux. Hot dog, diggity dog. Now we got ears, it's time for cheers. Les autres, moi, je suis partant tout le temps. On plante les politiciens à gauche puis à droite, puis des fois, on le mérite. Je veux dire, moi, dans théorie, les trois petits cochons, c'est la maison de briques qui a gagné. Fait qu'à un moment donné, Fait qu'à un moment donné, ta maison de briques est gagnée.
Fait qu'il y a une manière de séduire, fait que je comprends pas tant, mais je me dis, s'il y a de l'abus dans la haut, un carpe diem, t'as le droit à temps, ou en tout cas, il y a une manière...
Un per diem.
Un carpe diem, yolo les jeunes.
Carpe diem, on veut bien vivre le jour.
Moi, je dis carpe diem, OK?
Un carpe diem.
Alors, carpe diem.
Un carpe diem.
Avec le maximum de per diem.
Un carpe diem.
Mais nous, l'on entend le chant des sirènes.
T'as le droit à temps, ou en tout cas, il y a une manière.
Un per diem.
Un carpe diem. C'est parce que là, pareil, il fait des gouttes, là, sur patati patata. Fait que j'espère qu'il l'a pas pogné, celle-là. Là, ça passe, ça le tente plus.
Morel.
Ready for this?
Live.
Très, 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 très bon.
Live.
C'est pas une blague, là.
Avec Dominique Morel.
Les meilleurs au monde.
Radio.
Jeff Caron. Jeff Caron.
Comment ça va, Jeff? Joyeux Noël.
Ben oui, joyeux Noël, ça va bien, merci, et vous?
Oui, très bien, merci. Ça a l'air de quoi, Noël? Là? Parce que c'est quand même la première fois que tu vas vivre les fêtes de fin d'année dans ton nouveau pays d'adoption.
Ben non, je suis au Kazakhstan.
T'es revenu au Kazakhstan, OK.
On est revenu samedi matin, oui, c'est ça. Fait qu'ici, il fait moins 20, il y a de la neige. Je me suis cassé le dos aujourd'hui avec les enfants pour leur construire un igloo.
OK.
Ils sont bien contents.
Ben oui, ils sont contents, sauf que papa a mal dans le dos.
Pas trop haut, l'igloo, j'espère, ouais. Là? Faut pas...
Non, j'ai respecté les règles. C'est okay, pas plus parfait. Un mètre et 80 cm. J'ai suivi les règles, puis demain, je vais leur demander de mettre des casques aussi. On sait jamais. Hein.
Non, effectivement, tu fais bien Noël. Le casque de Noël. Hey, parle-moi donc des grands titres qu'on peut retrouver dans différents grands médias.
Ben oui, écoute, c'est le temps des fêtes, fait qu'il faut s'amuser un petit peu. Fait que j'ai décidé de faire une toute petite liste là, d'articles des deux, trois derniers jours des grands médias traditionnels pour rigoler un petit peu. Fait que je vous donne mon podium en troisième position. Saviez-vous qu'on apprenait grâce à CNN que Noël est menacé par les Russes?
Oh.
Oui, menacé par les Russes parce que les loups de Russie menacent de manger les rennes du Père Noël qu'on retrouve en Finlande.
Hein?
C'est pas une joke, là. Hein? C'est l'article de CNN hier. Et les Finlandais accusent la Russie d'être responsable de ça parce que les hommes russes qui auparavant étaient chasseurs dans la région sont maintenant à la guerre. Fait, comme il n'y a plus personne pour chasser les loups en Russie, ils traversent la frontière pour venir manger les rennes en Finlande.
Super! Ben oui, Père Noël, t'es en danger. Après ça, ça va être les lutins.
Oui, c'est ça. Après ça, ça va être les lutins, c'est sûr. Puis les enfants, puis ouais, on la voit venir déjà. Puis la médaille d'argent, ben c'est un... décernant un média québécois. On apprenait grâce au Devoir, la gazette du secondaire de ceux qui prenaient le petit autobus spécial, que le Père Noël peut être de couleur noire.
T'sais,
le Père Noël, personnage inspiré de Saint-Nicolas, un prêtre gréco-turc du 4e siècle. On sait très bien qu'à l'époque, dans cette région-là, la région n'était pas blanche du tout. Hein?
Non, effectivement.
Mais ça, c'est le Devoir, c'est la même folie woke qui consiste à créer une série Netflix avec un roi d'Angleterre noir, gay et en fauteuil roulant. C'est une joke, il y a eu ça. Puis la série a fait patate parce qu'évidemment, les gens n'ont pas embarqué. Mais ça, c'est le monde de la déconstruction des mythes qui, inévitablement, vient à créer une espèce de grande amnésie historique au nom de l'anti-blanchitude parce que ces gens-là, ils veulent nous faire croire qu'il n'y a pas plus grand crime contre l'humanité en 2025 que d'être blanc. Oui. Puis la première position, ben, c'est un autre quotidien britannique.
Juste avant, quand même, c'est parce que... je comprends, là, puis c'est la même affaire pour Jésus. Là. Jésus n'était pas blanc. OK, c'est correct. Mais le Père Noël, là, à la base, c'est une création de Coke. Là. Puis quand Coke l'a créé pour vrai, là, ben, il était blanc. Qu'est-ce que c'est? C'était ça.
C'est ça. Puis tu sais, Saint-Nicolas, tradition européenne, surtout les pays du nord de l'Europe, là. Bon, mais tu sais, oui, aujourd'hui, c'est des sociétés qui sont plus diversifiées, mais à l'époque, quand le mythe a été inventé, c'était assez blanc, là.
Puis tant qu'à y être Saint-Nicolas, il devait pas être obèse, puis il devait pas avoir une grosse barbe blanche. T'as qu'à niaiser.
Non, c'est ça. Mais là, écoute, on sait pas, avec les folies woke, là, peut-être qu'il va finir par avoir des cheveux couleur Skittle avec des pic-pics dans le nez, là. Puis il va falloir qu'on l'appelle en anglais Dedem au lieu lui ou elle.
dans un avenir approché.
On peut s'attendre à tout, hein?
Oui, manquez pas.
Ouais, dans le monde d'aujourd'hui, on peut s'attendre à tout.
Ouais, non,
la première position.
Oui, c'est Noël.
Puis la première position, roulement de tambour, c'est un quotidien britannique qui nous apprenait que les soldats russes en Ukraine n'ont pas d'autre choix que de se livrer au cannibalisme.
Oui.
Ah, ben oui. Bon, le plus faible.
Plus de bouffe, fait qu'ils sont obligés de se manger entre eux. Là.
Ben oui.
Mais ça, c'est de l'information qui provient des services de renseignement ukrainiens. Fait que bon, c'est douteux comme info parce que. Ben oui, parce que vous savez, à la guerre, la première victime, c'est la vérité. Vous en souviendrez peut-être en 1990, quand l'Irak a envahi le Koweït, la fameuse infirmière qui disait que les soldats irakiens avaient débranché les incubateurs dans l'unité des enfants prématurés à l'hôpital de Kuwait City. C'est un truc absolument horrible. Ben, on a appris quelques semaines plus tard que la fameuse infirmière en question, c'était en fait la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis et que son témoignage était évidemment faux. L'idée, c'est évidemment de démoniser l'adversaire pour donner l'impression aux gens que leur côté mène une guerre juste puis que l'adversaire représente le mal absolu. Puis on s'entend que quand cette propagande-là va trop loin, bien, ça mène à deux problèmes. Premier, c'est que ça implique la nécessité de combattre jusqu'à la victoire finale parce que toute négociation est impensable avec des gens qui font du cannibalisme ou qui débranchent les incubateurs d'enfants. Puis le deuxième problème, c'est que ça justifie tous les investissements inimaginables au nom de la victoire. Puis ça, ben, c'est la pensée qui prédomine en Europe puis au Canada en ce moment. Puis tu sais, d'autres mythes comme ça, des mensonges. Vous vous souvenez peut-être au début du conflit en Ukraine, le fameux fantôme de Kiev, l'aviateur ukrainien qui avait abattu 5 ou 6 chasseurs russes en 2022. Ben, tu sais, le gars était réellement un fantôme parce qu'on le cherche encore.
Okay.
Il y a aussi un grand-père ou une grand-mère ukrainienne qui a apparemment réussi à abattre un MiG russe avec un vieux fusil de chasse. Puis, ou encore les soldats ukrainiens qui étaient sur une île au début du conflit puis qui ont dit aux bateaux russes qui leur demandaient de se rendre, d'aller se faire foutre. Après quoi, ben, Zelensky a dit qu'ils avaient tous été tués pour qu'on apprenne finalement quelques semaines plus tard qu'il était en fait prisonnier de guerre. Fait que les médias, ils vont se concentrer que sur les mensonges puis la désinformation russe qui existe là, bel et bien en passant, mais en pensant que les Ukrainiens, eux, disent toujours la vérité.
Ben
alors
oui.
Que c'est clairement faux. Hein?
Ben oui, c'est si on s'entend pour dire que c'est un peu niaiseux, parce que pour moi, si les soldats russes avaient décidé de commencer à manger des êtres humains, ils auraient mangé les Ukrainiens.
Ben, ouais.
Oui, c'est ça, là. Puis, à base, là. Puis, tu sais, tout ça voudrait dire que tout le système de logistique russe qui consiste à donner de l'eau puis de la nourriture aux soldats a complètement échoué en ce moment en Ukraine, là. Alors que, à la lumière de ce qui se passe en ce moment sur le champ de bataille, on peut douter que ce soit effectivement le cas, là.
C'est le genre d'histoire que tu fais sortir pour essayer d'encourager les Ukrainiens. Regardez, là, les Russes sont à bout là, de leurs ressources, sont rendus à se manger eux-mêmes. Fait qu'on va gagner, là.
C'est ça, continuez. Enrôlez-vous, là, la victoire, là, elle nous pend au bout du nez. On va réussir dans 2 ou 3 semaines, mais il faut y aller à fond, il faut que vous vous mobilisiez. C'est exactement ça, l'objectif, là, de sortir une histoire complètement invraisemblable comme ça. Mais tu sais, blague à part, gare à ceux qui essaient de débunker ces mensonges-là, cette propagande-là, parce que les gouvernements les menacent de sanctions, comme c'est le cas en ce moment avec Jacques Beau puis Xavier Moreau, là, que j'ai évoqué la semaine dernière. Ces gens-là sont automatiquement catalogués comme des agents russes. Puis malheureusement, le Canada n'est pas épargné par cette logique-là. Puis je tiens à discuter de ça parce que Les médias traditionnels, évidemment, ils n'en ont pas parlé. Là. Radcan et TVA, ils sont plus intéressés à spéculer, à savoir si vous allez avoir de la neige ou non à Noël. Mais une histoire très, très, très troublante qui a été rendue publique il y a quelques jours, c'est celle du journaliste David Pugliese.
Oui.
Écoute, c'est complètement fou. Les services de renseignement canadiens ont tenté de le faire passer pour un agent russe sur la base de documents qui ont été fabriqués de A à Z, en collaboration avec les services de renseignement ukrainiens. Puis on peut se poser la question, c'est quoi le véritable crime de ce journaliste-là? C'est d'avoir exposé à de multiples reprises les dépassements de coûts du ministère canadien de la Défense. En plus, puis ça c'est le crime de lèse-majesté par excellence au Canada en ce moment, d'avoir demandé publiquement, dans un article, la destruction des monuments en hommage aux soldats de la 14e division SS Galicie, dans des cimetières canadiens, plus précisément à Oakville en Ontario, puis à Edmonton. Je pense que vous en avez déjà discuté de ça pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans tous les autres pays occupés par l'Allemagne nazie. Il y a des gens en Ukraine qui ont collaboré avec les Allemands, puis il y en avait tellement qui ont créé une division SS, donc c'est la 14e Galicie, puis à la fin, ils ont commis des crimes de guerre en Pologne. Puis à la fin de la guerre, il y a beaucoup...
On avait largement parlé lorsqu'on a salué et applaudi Pépi Nazi au commune à Ottawa. Là.
Exactement. Fait que ce journaliste-là a demandé à plusieurs reprises publiquement la destruction de ces monuments-là en hommage à ces soldats-là dans deux cimetières qu'on trouve au Canada. Fait qu'on peut légitimement penser que c'est une vengeance du lobby ukraino-canadien qui est incroyablement puissant au Canada, comme vous le savez. Hein. D'ailleurs, c'était le cas quand Chrystia Freeland était au gouvernement. C'est encore le cas aujourd'hui parce que le chef de cabinet de l'actuel ministre des Affaires étrangères, c'est l'ancien directeur exécutif du Congrès ukraino-canadien. Donc, tout ce qui se passe en ce moment là, au cabinet d'Anita Anand, la ministre des Affaires étrangères du Canada, c'est... 100%. La seule chose dont ils parlent et qui s'intéresse, c'est le conflit ukrainien. C'est comment on va pouvoir continuer à envoyer des millions et des millions de dollars dans ce pays-là. Fait que quand vous avez des gens comme ce journaliste-là qui commencent à sortir des histoires qui sont pas super reluisantes là, sur un certain passé d'une certaine frange du nationalisme ukrainien, ben ce gars-là, il se ramasse à être publiquement accusé d'être d'intelligence avec l'ennemi. Fait que tout ça, c'est pour dire qu'au nom du soutien canadien à l'Ukraine, une espèce de chape de plomb informationnelle qui est tombée sur le Canada, il est interdit sous peine de sanctions de remettre en question le narratif pro-Ukraine. T'sais, il y a deux ans, moi, j'ai été cancellé par la Chambre des communes. Puis là, un journaliste est officiellement soupçonné d'intelligence avec l'ennemi. En Europe, des individus sont interdits d'entrer sur le territoire de l'Union européenne, puis leur compte bancaire est menacé d'être saisi. Vous vous rendez compte là, que vous êtes sur une pente glissante, très, très, très glissante. Mais... Ça, c'est une pente là, qui détruit la vérité puis qui a mené vos 338 plantes vertes à Ottawa à applaudir comme des crétins un ancien SS en pleine chambre des communes.
Hein, oui, et le papy nazi.
Bravo, là, vraiment. Là. Mais ça, c'est le résultat de ne pas discuter de l'histoire, des faits historiques. Puis quand les gens deviennent complètement innocents, ils ne sont pas au courant de ces choses-là, ben ils vont se lever pour applaudir une personne qui a servi avec les nazis, tu sais.
Mais moi, Jeff, j'ai l'impression qu'une des plus belles propagandes qu'a réussi le Canada, c'est de faire croire à ses citoyens que c'était un pays différent des autres, qui se salissait jamais les mains, qui embarquait jamais dans ces attitudes de propagande-là. Tu sais, on dirait que les Canadiens, quand ils lisent ce genre de nouvelles-là, sont comme « Ben non, ça se peut pas. Pas le Canada. On n'est pas de même, nous autres. »
Non, nous autres, on est des casques bleus.
Une démocratie. Mais oui, c'est pas une démocratie. Voilà, une démocratie ne ment jamais à leurs citoyens, contrairement à une dictature où les médias sont gérés par l'État, puis tout ce qui est dit doit être préalablement approuvé par des comités de censure. Ben non, t'sais, on s'est rendu compte là, il y a quelques jours à peine là, avec le Christian Rioux qui s'est fait clairer du devoir. Ben au devoir, il y a effectivement une espèce de comité de censure qui va censurer des chroniques s'il y a des mots puis des expressions qui vont déplaire à Marie Luzerne qui habite sur le plateau Mont-Royal puis qui a fait un bac en anthropologie à l'UQAM. C'est ça qu'il a dit, là. Puis, regarde, Radio-Can, là, il y a une liste noire de gens qui n'ont pas le droit de citer, là, qui ne peuvent pas être invités. Puis, il y a TVA aussi, by the way, hein, des gens qui travaillent à TVA qui m'ont confirmé que Caron, on ne peut pas l'inviter, il est pro-russe. Fait que faut arrêter, là. Hein. Penser qu'en démocratie, là, l'information, elle est entièrement objective puis elle n'est pas dirigée par des gens qui veulent tirer les ficelles, là. Faut revenir sur Terre, là. En cette matière-là, surtout en 2025, là, je m'excuse, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de contrôle de l'information sur ce qui peut être dit et sur ce qui ne peut pas être dit. D'où la raison pour laquelle les gouvernements veulent tellement réglementer l'Internet puis les médias sociaux, parce que c'est une parole qui leur échappe. Ils n'ont pas le contrôle, ils n'ont pas la possibilité de censurer les individus sur les réseaux sociaux. C'est leur grande phobie, là, en ce moment, puis on comprend pourquoi.
Puis l'impact est réel sur la crédibilité et des médias et des politicos. Fait juste regarder l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, là, c'est tellement mal fichu. Ils sont pas capables de sortir les documents de la bonne façon. Non. Ils sont pas capables de convaincre le monde qu'ils sortent les documents. Puis ça fait que c'est devenu une grosse, grosse risée. Puis que tout le monde peut en prendre. Puis faire dire n'importe quoi aux documents qu'on a eus.
Ben oui, le dossier Epstein, c'est vraiment l'épine dans le pied à Trump. Tu sais, à quelque part, c'est aussi sa promesse brisée, hein, de rendre la liste publique. Puis ça, je pense que je vous l'ai dit la semaine dernière, ça a entraîné une rupture au sein du mouvement MAGA cette année, avec le départ de Marjorie Taylor Greene, qui a reproché à Trump d'avoir menti. Puis évidemment, ben ça vient ouvrir la porte à toutes les spéculations. T'sais, les gens se demandent pourquoi est-ce qu'il honore pas sa promesse. Est-ce que c'était lui-même un client d'Epstein? Est-ce qu'il cherche à protéger certains de ses amis qui l'auraient peut-être été? Fait qu'on n'en sait rien, mais t'sais, comme on dit en anglais, puis ça, c'est le gros problème de Trump en 2025, pendant la campagne présidentielle, il a laissé sa bouche écrire un chèque que son cul n'est pas en mesure d'encaisser.
Right.
Puis on peut comprendre la déception d'une partie de ses supporters. Puis évidemment, ben là, vous avez affaire à peu près n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, il gagnerait là, à faire ce qu'il a promis qu'il ferait pour qu'on fasse toute la lumière sur cette histoire-là puis qu'on puisse passer à autre chose, là.
Je vais me corriger
sur
ce que j'ai dit.
On va voir en 2026 s'il va le faire.
Oui, je vais me corriger sur ce que j'ai dit hier. Hier, je disais « rendez tout public ». Là, aujourd'hui, je dirais, rendez tout public. Les seules choses qui vont être caviardées, c'est le nom des victimes. Le reste, tu le sors tout.
Oui, évidemment, c'est ça. Moins que ce soit des adultes maintenant qui acceptent de témoigner et que leur nom soit pas...
Mais ils ont fait une erreur les derniers jours. Dans ce qu'ils ont rendu public, il y a eu une des victimes qui avait toujours été qui avait jamais été rendue publique, qui ont sorti le nom. Et ils ont changé ça par après, là, mais ils l'ont fait quand même, cette erreur-là.
Trop peu, trop tard. Non, c'est ça, il y a une façon de le faire, là, tu sais.
C'est ça.
Mais c'est ça. Éventuellement, écoute, la liste des clients, je pense que les gens ont le droit de savoir qui était client avec Epstein. Puis les gens ont aussi le droit de savoir qui n'était que, tu sais, des associés d'affaires d'Epstein. Tu sais, moi, ça m'est arrivé dans le passé. Écoute, c'était il y a à peu près, ma foi, il y a plus de 25 ans. C'est une personne que j'avais aidée pendant une campagne électorale. Puis à peu près 10 ou 15 ans après, je découvre dans les journaux que la personne est accusée d'agression sexuelle.
Quand?
Tu sais, sur le coup, tu fais « ouais, wow, OK ». Tu sais, j'ai coupé tous les liens avec cette personne-là. Là. Vraiment, pour moi, c'était inacceptable. Mais tu sais, je m'étais fait prendre en photo à l'époque avant que cette histoire-là sorte. Tu sais, ça peut être tellement facile après ça de dire « ah, c'est ça, il collaborait avec lui, puis c'est un complice. » Tu sais, faut aussi faire attention. Dans l'histoire Epstein, c'était aussi un homme d'affaires.
Oui.
Faire attention de ne pas salir la réputation de gens qui faisait uniquement impliqué dans des relations d'affaires avec lui, puis qui n'était pas impliqué dans son réseau de pédophilie.
Effectivement. Puis, tu sais, en terminant, quand toute cette histoire-là est sortie la semaine passée, moi, je me disais, moi, être à la place de Trump, j'ouvrirais les caméras 24/24 sur ce qui se passe en terre vénézuélienne, sur ce que l'armée est en train de faire au Venezuela, histoire de changer un peu le narratif, le discours.
Le narratif, oui.
12 heures
Whack
après,
the dog,
ouais, 12 heures après, ben, on voyait l'équipe Delta aborder un pétrolier. Ça brasse aussi au Venezuela, là.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, à quelque part, on parlait de désinformation, de propagande. T'sais, officiellement, les opérations militaires des États-Unis, ça consiste simplement à lutter contre le trafic de drogue, qui est une réalité indéniable en passant. Mais je pense que le véritable objectif de l'administration Trump, c'est pas la lutte contre le trafic de drogue,
non,
qui est un objectif secondaire.
C'est
ça, puis c'est pas la volonté d'instaurer la démocratie. C'est pour mettre de la pression sur la Russie, parce que le Venezuela, c'est un allié de Moscou, mais aussi pour repousser de l'Amérique là, toute ingérence étrangère potentielle. C'est la doctrine Monroe 2.0. Après les menaces sur le Panama, où il y avait des intérêts chinois, Washington, dans son objectif de créer la forteresse Amérique, désire voir au Venezuela un régime ami. Puis, tu sais, la question, même pas la question à 1000 piastres, la question à une piastre, parce que la réponse est tellement évidente, c'est quoi le pays qui possède les plus vastes réserves de gaz et de pétrole? L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis? Mais non, tu sais, c'est le Venezuela qui a des réserves estimées à plus de 300 milliards de barils. Puis c'est aussi un pays où je trouve énormément de terres rares. Quand je parle de pression sur Moscou, puis la Chine aussi, c'est que les États-Unis, c'est l'envoyer le message que les États-Unis ne vont pas hésiter à utiliser leur force armée pour atteindre leurs objectifs stratégiques, contrairement à l'Europe là, qui fait peur à personne. Maintenant, est-ce qu'il va véritablement avoir une opération militaire américaine pour renverser le régime de Maduro? J'en sais rien. Mais si ça va se produire, vous saurez pourquoi. C'est pas à cause du trafic de drogue.
Ah non,
c'est pour le contrôle des ressources naturelles, parce que le monde qui s'ouvre devant nous, c'est un monde où les empires en présence, là, les plus importants, c'est les États-Unis puis la Chine, vont chercher à s'accaparer le plus possible de ressources naturelles puis à contrôler le plus possible de voies de passage stratégiques dans le monde. Le canal de Panama, le passage du Nord-Ouest, le détroit de Malacca. Puis ça va se faire sans concession. Fait que le message devrait être entendu à Ottawa, hein? Parce que si le Canada n'exploite pas ses nombreuses ressources naturelles puis n'arrive pas à contrôler sa frontière maritime dans l'Arctique, le Canada peut s'attendre à se faire donner une fessée par les États-Unis. Puis moi, j'ai peur que la fessée à venir en 2026, ça va faire encore plus mal que celle de 2025 si le Canada décide pas de comprendre le message puis de rentrer dans le rang, là. L'époque des casques bleus puis des belles paroles puis de Mélanie Joly avec son suit kaki à Washington pour serrer des mains en pensant que ça va infléchir les positions diplomatiques des autres pays, là, c'est fini, ça, là. C'est l'époque là, du hard power où c'est les armes qui vont parler. C'est le monde de demain, ça, là. Puis, tu sais, on s'entend que le Canada est vraiment pas préparé à affronter un monde comme celui-là, là.
L'année 2026 sera remplie de surprises, de belles et de mauvaises surprises. Jean-François Caron, de retour au Kazakhstan pour la période des fêtes. Je te souhaite un joyeux Noël avec toute la famille, toute la petite gang. Puis, on s'en parle en 2026.
Ouais, merci. Bonne année à tout le monde.
Ouais,
bye.
Merci. Bonne année. Bye. Jeff Caron, qui nous parlait, ça brasse. Ça brasse beaucoup. Partout dans le monde, puis on l'a vu, ça brasse depuis 4-5 ans, et ça va continuer en 2026, c'est le Canada. Fait partie des joueurs qui se font brasser des fois de temps en temps, puis ça aussi, ça va continuer en 2026. On commence le party des fêtes au retour.
Yeah.
On accueille le king de la viande, le king de la musique, puis le king de la football, puis le king de la bière. Tout ce beau monde-là réuni en 3 personnes dans le studio avec nous.
Hey, c'est pas extraordinaire! On relâche.
Oui, c'est vrai. Je veux vous faire entendre le montage d'Anthony Rota parce qu'on en a parlé du papinazi.
Oui, papinazi.
Donc, on retourne au Kerouac.
Oui. Oh, tout le monde debout. On tape des mains. Let's go. Tu nous as beaucoup surpris. Vendredi, t'as honoré un nazi. Anthony Rota. Tout le monde applaudit. Le papy lui-même en était fort surpris. Anthony Rota. Mais là, tu t'es gouré, mon chumé. Tu vas t'essuyer sur tes attachés. C'est assez, on va te virer. Bye, 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 bye. Yahoo! Bye, mon Rota. Alors, c'est pas Rita. Rita est mort de rire dans le fond. Appelez-le pas Rita. C'est pas son vrai nom. Hey, c'est une soirée extraordinaire. Bravo!
Toute l'équipe de Morey Live. Morey. De retour dans un instant.
Live.
Oui, monsieur.
Radio X.